France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque jour à 14h, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Quand le bâtiment va, tout va. Voilà un adage qui nous vient tout droit du 19e siècle, lorsque la frénésie immobilière reflétait l'essor des jeunes économies industrielles. Aujourd'hui, la construction est-elle toujours au cœur de la croissance ? De la pénurie de sable aux bulles spéculatives, en passant par l'espoir d'un New Deal vert, l'économie est en chantier toute cette semaine sur France Culture.
Entendez-vous l'écho du lundi au vendredi à 14h et sur franceculture.fr.
Le mercredi 25 septembre à 20h à l'auditorium de Radio France, le chef d'orchestre slovaque Juraj Valčua dirige l'Orchestre National de France dans la deuxième symphonie de Rachmaninov. Tantôt mélancolique, tantôt héroïque, toujours lumineuse. Les gigantesques vagues orchestrales, les tourbillons de sons et de notes vous emporteront. Entrez au cœur du concert. Réservation, maisondelaradio.fr.
France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Les urgentistes vont maintenir la pression sur le gouvernement. La CGT organise aujourd'hui une manifestation à Paris quand le collectif Interurgence reste mobilisé et prépare de son côté une journée d'action pour le 26 septembre. La grève se poursuit donc au surlendemain des annonces par la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Emmanuel Macron, se plaçant en arbitre dans le conflit qui oppose la ministre des Sports et le président de la Fédération française de football, Roxana Maracineanu a dénoncé hier la position erronée de Noël Le Graët qui avait différencié la lutte contre le racisme et la lutte contre l'homophobie, estimant que le racisme pouvait donner lieu à une interruption de match et non pas l'homophobie. Pour le chef de l'État, la ministre des Sports est dans son rôle en répondant au président de la Fédération, mais il appelle désormais à ce que tout le monde travaille ensemble. Le livre de Tariq Ramadan sera bien publié aujourd'hui sur décision de justice. Une femme, connue sous le pseudonyme de Christelle, l'accuse de viol et voit son vrai nom mentionné 84 fois dans le livre de l'islamologue. La justice reconnaît un préjudice, mais estime également qu'une interdiction du livre porterait une atteinte excessive, disproportionnée à la liberté d'expression de Tariq Ramadan. L'actualité internationale et ses réactions nombreuses après la promesse de campagne du Premier ministre sortant israélien. Benjamin Netanyahou promet d'annexer la vallée du Jourdain, c'est-à-dire 30% de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 67. Cela anéantirait toute chance de paix, a prévenu par exemple l'autorité palestinienne. Et puis c'est le quatrième départ en 2 ans et demi. Le conseiller à la sécurité nationale à Washington a une fois encore été écarté. John Bolton était partisan d'une ligne dure face à l'Iran, de plus en plus souvent en désaccord avec Donald Trump. Pour Téhéran, ce limogeage est le signe clair que la campagne de sanctions américaines contre l'Iran est un échec.
Est-ce qu'en France, les migrants sont vraiment mieux traités que les SDF ? L'Europe aurait-elle été fondée sur ordre des services secrets américains ? Les OGM sont-ils dangereux pour la santé ? Mais surtout, ils sont là, ils sont cachés dans les villes, dans les campagnes. Les extraterrestres sont-ils parmi nous ? Parce qu'il n'y a pas de mauvaises questions, mais trop souvent des mauvaises réponses. Les idées claires, c'est votre pilule hebdomadaire contre la désinformation.
Les idées claires, Nicolas Martin. Chaque mercredi, retrouvez un podcast audio et une vidéo. Plus d'infos sur franceculture.fr. Chaque semaine, une grande figure du patrimoine mondial. La Compagnie des œuvres sur France Culture. Mathieu Garrigou-Lagrange.
L'œuvre de Louise Bourgeois flirte avec la psychanalyse. Sa sculpture d'araignée géante est une ode ambiguë à sa mère, dont le métier était de tisser, et elle a consacré des œuvres plus ambiguës encore à la masculinité de son père. Morte en 2010, à 98 ans, cette franco-américaine est l'une des plus grandes figures de l'art du XXe siècle.
La Compagnie des œuvres, de lundi à jeudi à 15h et sur franceculture.fr.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture et en ce mercredi 11 septembre, nous parlons cinéma avec Tofik Hakem.
Le réveil culturel. Tofik Hakem.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Réveil culturel, une émission préparée avec la complicité de Corinne Amar. La réalisation est de Vincent Abouchard avec ce matin la prise de son Bastien Varigaud. Et tous les mercredis, vous le savez, on parle de l'actu ciné avec aujourd'hui l'hommage que la Cinémathèque française rend à l'ami américain Nicolas Ray à l'occasion du 40e anniversaire de sa disparition. Une riche rétrospective avec au programme jusqu'au 28 septembre les plus grands films bien sûr de ce metteur en scène, souvent à contre-courant des productions hollywoodiennes de son époque. C'est l'auteur bien sûr de La Fureur de Vivre, de Johnny Guitar, mais aussi Les Amants de la Nuit, son premier film, son premier chef-d'œuvre, et d'autres films qui méritent d'être revus ou découverts. Et pour parler de Nicolas Ray ce matin, mon invité est Bernard Eisenschitz, qui est donc critique et historien de cinéma et l'auteur d'un ouvrage de référence, Roman américain Lévy de Nicolas Ray. Ça a été édité en 1990 par Christian Bourgois.
Le Réveil culturel. Mercredi, cinéma.
My hearers are no more neurotic than the audience, unless you can feel that a hero is just as fucked up as you are and that you would make the same mistakes that he would make. You can have no satisfaction when he does commit an heroic act, because then you can say, hell, I could have done that too. And that's the obligation of the filmmaker, of the theater worker, to give a heightened sense of experience to the people who pay to come to see his work.
Bonjour Bernard Eisenschitz.
Bonjour.
Vous venez d'entendre Nicolas Ray, c'était à la fin de sa vie, c'est-à-dire au début des années 70. Une fois de plus, obligé de se justifier par rapport à ces personnages qui étaient plutôt des contre-héros. Il disait en substance, mes héros ne sont pas plus névrosés que ceux qui viennent voir le film. Il y a un phénomène d'identification. Il y a un moment où le spectateur se rend compte qu'il est aussi déjanté que mon héros.
Et quand le héros commet un acte héroïque, le spectateur se dit, bon sang, moi j'aurais pu en faire autant. Je ne sais pas s'il se justifiait, c'est quelqu'un qui a toujours essayé de réfléchir sur le cinéma, qui s'est assez mal exprimé là-dessus, qui s'exprimait de manière, avec des sentences, avec des phrases comme celle-ci, qui sont des choses qu'il a souvent répétées. Bon, ce qui est certain, c'est que dans ce cinéma américain des années 40-50, où Ray a eu une trajectoire assez brève, hein. En une quinzaine d'années, il a fait 16 films, et puis ça s'est arrêté, tout à coup. Dans cette période-là, ces personnages sont des personnages plus personnels, plus autobiographiques, si on veut, que ce à quoi on était habitué à l'époque. Ce sont des personnages fragiles, ce sont des personnages souvent meurtris, pour des raisons familiales, pour des raisons de passé ou non. Et c'est là que Ray commence à se dégager de cette ambiance très générale du cinéma américain des années de l'après-guerre. Cinéma très très brillant, cinéma sur le point de se terminer, de tourner une page aussi. On a tourné la page sur Ray, mais sur beaucoup d'autres aussi. Et là, il y a quelque chose qu'on voit dans ces films. Il y a une sorte de blessure ou de fragilité.
Et ça vient d'où, vous qui êtes l'auteur donc de romans américains, Lévy de Nicolas Ray?
Ray vient d'expériences très très multiples. La petite ville américaine, le centre de l'Amérique, mais surtout des expériences multiples, des expériences de formation multiples. Je ne parle pas tellement de sa formation psychologique, etc., sur laquelle on peut gloser à l'infini. Il ne me paraît pas tellement intéressante, qui est relativement connue, mais il y a des expériences très très passionnantes avec un architecte, Frank Lloyd Wright, avec un romancier, Thornton Wilder, romancier et dramaturge, ensuite avec le théâtre militant, là où il fait la connaissance de Kazan, avec l'ethnomusicologue Alan Lomax, avec lequel il va se promener dans le sud, faire des enregistrements de musique originale, finalement avec la radio, avec le jazz aussi. Ce qui l'intéressait, c'était quand même de faire entrer cette expérience très très américaine, d'où le titre de mon livre, cette expérience dans les films. de faire entrer une sorte, peut-être pour dire bêtement, de l'air dans ces films qui étaient des films très très codés. À l'époque, il y avait des genres, il y avait des codes, il y avait des règles à l'intérieur desquelles on pouvait travailler admirablement et dans lesquelles Ray a pu travailler admirablement, mais avec toujours cette volonté de faire sauter la boîte.
De l'intérieur, hein, parce qu'il travaillait pour les studios, il a traversé un peu tous les genres. Il a fait le western, le film d'action, le film policier, la fresque historique.
Le seul genre qu'il voulait faire, c'était la comédie musicale qu'il n'a jamais faite.
Ouais.
Alors oui, il a travaillé pour les studios, à l'intérieur des studios, à l'intérieur d'un studio d'abord, RKO, pour la moitié de ses films, et puis ensuite en passant d'un studio à l'autre et finalement en se retrouvant plutôt en Europe, ce qui était une tendance du cinéma américain à l'époque.
Alors comment il commence sa carrière, Nicolas Ray? Je vous pose cette question à vous, Bernard Ezenschitz, parce que après-demain, vendredi, vous allez présenter son premier film, Les Amants de la Nuit.
Il commence sa carrière en arrivant donc de la côte Est, du théâtre, de la radio, dans les conditions idéales pour un premier film, des conditions qu'il ne va jamais retrouver. Il a un producteur, John Houseman, qui l'impose au studio, qui décide de le protéger contre le studio. Le studio, comme disait Houseman, est toujours hostile à tout élément de nouveauté. Tout nouveau, surtout arrivé de la côte Est, c'est quelqu'un dont il vaudrait mieux s'en débarrasser le plus vite possible. Donc, il est protégé là-dessus. Il trouve un roman, lui ou Houseman trouve un roman qui correspond parfaitement à son expérience de la dépression des années 30, des voyages à travers le Sud, qui est un roman écrit par un journaliste du Sud à partir d'entretiens faits avec des détenus dans une prison. Et donc, ce n'est pas un roman noir, ce n'est pas un roman policier, mais c'est un roman criminel. Mais c'est aussi un roman de la dépression, au même titre, disons, que Les souris et des hommes de Steinbeck.
Et donc un roman très documenté.
Et il va pouvoir faire ce premier film avec des choix qui seront les siens. Enfin, la phrase que j'ai utilisée pour introduire cette intervention après-demain, c'est j'aime ce film parce que toutes les erreurs sont de moi.
Dixit, Nicolas Ray.
Voilà. Et c'est ça l'important pour lui, c'est de faire un travail qui sera entièrement le sien. Alors après, dans les 15 films suivants, il y aura des compromis que Ray acceptera, qu'il apprendra à contourner, il apprendra à ruser, il apprendra à faire ce que tous les cinéastes font dans le monde entier quand ils se trouvent avec un carcan de production assez rigide, comme était celui des studios. On y retrouve une certaine liberté. Mais ce ne sera plus exactement la même chose que ce premier film, Les Amants de la Nuit.
Alors, qu'est-ce qui différencie ce film, Les Amants de la Nuit, des autres productions hollywoodiennes de cette époque-là, Bernard Ezenschitz?
Le film est fait en 47 et c'est une année très riche de films noirs. Le film noir, c'est un genre de l'après-guerre, c'est un genre un petit peu de la désillusion de l'après-guerre et c'est un genre qui est caractérisé par deux choses, un décor urbain, la grande ville piège, et la violence. Ce que fait Ray avec ce roman, qu'il adapte très librement, dont il adapte, disons, une partie, parce que le roman est très très riche. Il a même servi à un remake de Robert Altman, qui n'est pas un remake, qui est une autre adaptation. Ce que fait Ray avec ce roman, c'est qu'il fait un film qui se passe dans la campagne, qui se passe dans le sud pauvre, qui se passe très nettement, ça n'est jamais dit, mais qui se passe très nettement dans un passé qui est le passé de la dépression. Et c'est un film où la violence est imposée à tous, mais chacun, sauf les taulards évadés, essaye d'éviter la violence. Donc on est à l'opposé du film noir. D'ailleurs, film noir est un terme qui a été inventé par les Anglais et les Français après coup. On est à l'opposé du film noir qui se fait à l'époque, comme d'excellents films comme Né pour tuer de Robert Wise ou La griffe du passé, Pendez-moi haut et court de Jacques Tourneur, qui sont des films contemporains sortis du même studio. C'est un film fait plutôt sur la tentative de trouver sa place dans la vie, sur la tendresse, sur des corps. Il y a une grande sensualité dans ce film qu'on n'a pas dans tous ces films de cette époque, de cette très très bonne année du film noir.
70 ans après la sortie de ce film, quand on le voit aujourd'hui, il nous raconte quoi de l'Amérique de l'époque ?
Le film est terminé en août 47, c'est-à-dire un mois avant le début des audiences, des auditions de la commission des activités anti-américaines.
Lancée par le sénateur McCarthy.
Où le sénateur McCarthy va faire sa grande carrière. Et le film parle à un moment, le moment clé du film, qui est un moment ajouté au roman, qui n'a rien à voir avec le roman, le film parle de la délation aussi, puisque la solution du film, c'est une femme qui est un personnage agressif, mais très très touchant dans le film, qui est complètement piégée par la police et qui est amenée à dénoncer le héros, Farley Granger, et à amener en sachant qu'elle le mène à sa mort, en dénonçant Bowie. Donc voilà, il y a des choses, on peut retrouver des choses, des relations directes avec le président de l'Amérique. Je pense simplement que c'est un cinéma qui ne se faisait pas en Amérique à l'époque et qui a peut-être est parti dans des directions intéressantes à suivre ici et ailleurs.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Play the guitar, play it again, my Johnny. Maybe you're cold, but you're so warm inside. I was always a fool for my Johnny, for the one they call Johnny Guitar. Play it again, Johnny Guitar. What if you go? What if you stay? I love you. What if you're cruel? You can be kind, I know. Johnny, like the one they call Johnny Guitar.
Et on va pouvoir revoir ce grand classique de Nicolas Ray, Johnny Guitar, à la Cinémathèque cette semaine dans le cadre de cette rétrospective consacrée à cet auteur particulier. C'est jusqu'au 28 septembre. Bernard Eisenschitz, pourquoi ce film? C'est le film de Nicolas Ray qui reste. C'est le classique des classiques. Lui qui a réalisé quand même quelques bons films dont certains on peut les considérer comme des chefs-d'œuvre.
Ben ça, c'est peut-être la magie des films de Ray. C'est un film terriblement accidenté dans la manière dont il s'est fait. C'est un film dont personne ne voulait. C'est un film que Ray a détesté jusqu'au moment où il a lu les critiques françaises qui l'ont beaucoup amusé. Il a commencé à se dire finalement c'était peut-être pas si mal. Alors peut-être qu'on peut se dire plus sérieusement que c'est aussi un exemple de ce qui passionnait Ray dans le cinéma, c'est-à-dire d'utiliser à fond les moyens du cinéma, ce qui n'était pas vraiment ce qui préoccupait les grandes qualités des films américains, les merveilleuses qualités des films américains des années 50, ne tenaient pas vraiment aux possibilités du cinéma. Or là, on a une histoire qui est une histoire de retrouvailles, une histoire d'amour, d'amertume amoureuse, comme disait Truffaut, et on a également quelque chose sur la délation, on a quelque chose sur la trahison, sur les individus contre la meute, contre le lynchage. Et Ray fait de ça un film de couleur folle choisie pour le film, un style de couleur aidé par un procédé de couleur très très bizarre, le Trucolor, qui était le procédé de ce studio. Donc c'était un petit studio, c'était République, dont le patron avait un procédé de couleur qu'il fallait utiliser. Comment faire avec ce procédé qui ne fonctionne pas très très bien? C'est avec une stylisation extrême des couleurs, avec une utilisation du noir, une utilisation du rouge, une utilisation de la nuit, d'une nuit noire, et quelque chose, alors que le film est en grande partie tourné en extérieur. Donc l'aspect verdoyant du western est plus ou moins abandonné au profit d'abord des grandes roches rouges qu'on trouve dans ce coin de l'Arizona, à Sedona, et le rouge des robes, le rouge des vêtements et la stylisation accordée, le noir de la meute des lyncheurs, de la troupe de la milice. Voilà, ça c'est quelque chose, une idée qui contamine tout le film, si on veut. À part ça, c'est un scénario relativement classique et qui est sublimé par des acteurs. Alors là, ça tient aussi à la capacité d'utiliser les faiblesses des acteurs. On le met sur un film qui tient entièrement à une vedette sur le retour. Joan Crawford, qui avait été virée d'MGM, puis qui avait été virée de Warner, mais qui était encore une grande vedette. Et Joan Crawford, qui est une actrice caractérielle, qui est une vedette caractérielle, c'est pas, je n'invente rien ou je ne dis rien de secret, il y a un livre de sa fille à ce sujet. Et donc Joan Crawford décide qu'elle va jouer l'homme. C'est un western, mais c'est elle qui va jouer l'homme. Donc ils sont dans l'Arizona et il faut réécrire le scénario au jour le jour pendant qu'il y a un acteur, Sterling Hayden, qui est un acteur profondément névrosé, qui ne s'intéresse pas à sa carrière d'acteur, qui ne s'intéresse qu'à prendre la mer sur son yacht. Et les deux deviennent des acteurs absolument magnifiques dans cette situation, avec des dialogues lyriques qui sont soulignés, soit qui sont réécrits par Ray, soit qui sont retravaillés légèrement par Ray. Mais il y a cette capacité donc de s'adapter en cours de film aux accidents, aux obstacles, et faire du film quelque chose qui se développe, qui prend sa propre dynamique. Alors, ça ne revient pas complètement à l'improvisation. Mmh. Hein, il s'agit pas de l'improvisation constante. Il s'agit de savoir que le film est un organisme qui bouge, qui évolue.
You know what kind of drunken brawls those parties turn into? It's no place for kids.
A minute ago, you said you didn't care if he drinks.
He said a little drink.
You're tearing me apart!
What?
You say one thing, he says another, and everybody changes back again!
Girls don't love their father. Since when? Since I got to be 16?
Stop that!
I love you, Jim. I really mean it.
Bernard Eisenschitz, dans cette rétrospective qu'organise la Cinémathèque pour rendre hommage à Nicolas Ray 40 ans après sa disparition, bien sûr, il y a ce film, peut-être le film qui a le mieux marché dans sa carrière, le film avec James Dean, La fureur de vivre.
C'est certainement son film le plus connu et c'est certainement aussi le film qui a le mieux marché par rapport à ce qu'il était au départ. On peut penser, pendant très longtemps, Le Roi des Rois, qu'il a tourné en Europe, a été la plus grosse recette de ses films, mais celui qui a le mieux marché vraiment, c'est La fureur de vivre. Bon, ça tient à beaucoup de raisons, ça tient au souci de Ray, à l'envie de Ray de faire un film sur la jeunesse, donc qui a été complètement exaucé dans ce film qui, là encore, est un film qui s'est fait en cours de route, avec différentes strates de scénarios, différentes interventions de scénaristes, le moment décisif de choisir un acteur, James Dean, qui était pour Ray l'incarnation vraiment de cette jeunesse, face à une génération de parents qui avaient trahi ou qui avaient lâché ou qui avaient renoncé, un scénariste venu de la côte Est de New York qui s'est très bien entendu avec Dean. Donc le moment où quelque chose, un ensemble s'est fait. Le moment où Ray a choisi un par un tous les ados du film et où il les a fait répéter ensemble, il leur a fait faire des exercices ensemble, voire des jeux ensemble, mais il y a eu toute une période célèbre illustrée par des photos au château Marmont, le grand hôtel sur Hollywood Boulevard, sur Sunset, où les scénaristes venaient quand ils étaient en crise d'inspiration, donc c'était pas exactement les mêmes prix qu'aujourd'hui. Et là, il y avait dans les après-midi des réunions de discussion sur le scénario, des réunions pour définir plus ou moins le rôle, l'action, comme on disait en langage Stanislavski Actor Studio, de chacun des personnages. Donc le film est aussi un film en mouvement du début à la fin. Et c'est peut-être là qu'il a touché juste, plus juste peut-être que le film précédent de James Dean, le premier.
Alice Deden, ouais.
Alice Deden de Kazan, qui est un très beau film par ailleurs.
Et au-delà de La Fureur de Vivre, de Johnny Guitar, deux films très connus, et puis même Les Amants de la Nuit, ce premier film, ce premier coup de maître de Nicolas Ray, la rétrospective actuellement consacrée à Ray, à la Cinémathèque, nous permet de découvrir les autres films, un peu peut-être moins connus de Nicolas Ray, Bernard Eisenschitz. Quels sont les films qu'il faudrait absolument voir, parce que une occasion comme celle-ci est rare, hein.
Je crois qu'il faut absolument voir, pour les prendre dans l'ordre, il faut voir Les Indomptables avec Mitch Hume et Susan Hayward, un film sur le rodéo qui est aussi un film aventureux dans sa facture. Et dans le résultat, il faut absolument voir La Maison dans l'ombre, qui est un film en deux morceaux, en deux parties. Une partie ville, une partie campagne. Un film noir alors, mais un film noir extrêmement insolite. J'en oublie, il faut voir bien sûr La Forêt interdite, qui est ce que Truffaut appelait un grand film malade, et qui est un film magnifique aujourd'hui, que tout le monde reconnaît comme un des grands films de Ray, même s'il n'a pas pu le terminer, il n'a pas pu le monter, etc. Il reste quelque chose, il reste l'essentiel, et l'essentiel est vraiment de lui, avec l'aide du producteur scénariste qu'il détestait et qui le détestait. Il y a eu une véritable entente entre ces deux hommes.
Et puis, cinéma vérité, Nicolas Ray est le premier réalisateur, à ma connaissance, peut-être que je me trompe, Bernard Eisenschitz, a filmé sa mort, a filmé les derniers jours de sa vie, a laissé une caméra le filmer pendant un moment terrible de sa vie.
Oui, Wenders voulait absolument faire quelque chose, voulait accompagner. Il y a eu une grande amitié entre eux pendant ces deux ans qui ont séparé l'ami américain.
Et Nick's Movie.
Et Wenders tenait absolument, il savait que Ray tenait à refaire un film et qu'il fallait que ce soit un vrai film, c'est-à-dire un film avec une équipe, pas un film tourné par quelqu'un en 16 mm le suivant, mais un film avec une véritable équipe. Il a fait venir des gens et il savait aussi que il y avait des rêves inassouvis de Ray, des rêves de cinéma, un projet qui était de remonter tous ces films, réétalonner ces films. Il discutait avec les laboratoires. Les laboratoires s'intéressaient plutôt à la dette qu'ils avaient laissée chez eux. Mais lui, il voulait reprendre Johnny Guitar, refaire l'étalonnage, remonter les films, enlever les choses qu'il n'aimait pas, etc. Et Wenders a transformé ça en l'histoire d'un peintre qui veut récupérer ses toiles pour les retravailler. Ce qui est déjà l'histoire du personnage de Ray dans L'Ami américain. Alors, au cours du tournage, évidemment, ça a été complètement abandonné, tout ça, parce que la maladie, comme disait Wenders, la maladie a été beaucoup plus rapide que le tournage. Donc, il a fallu faire un film sur Ray dans ses dernières semaines et faire un film avec autant de...
Avec son accord.
Oui, le film qu'il voulait. Le film qu'il voulait faire sur lui avec autant de respect et d'affection qu'il était possible. Donc, ça a commencé avec cette intervention de Ray au collège à Vassar, dans l'État de New York, où il parle au public, et petit à petit, on a vu ce qu'on voyait au jour le jour sur le tournage, Ray prendre ses médicaments, se soigner, aller encore à ses cours de théâtre, à des répétitions, assister à des improvisations de ses étudiants, qui avaient une très grande affection pour lui, aussi bien celui qu'on voit jouer Kafka que Jim Jarmusch qui portait le matériel, qui suivait, qui lui...
Mais c'est une expérience inédite, Bernard Eisenschitz. Il faudra attendre ensuite des décennies. Il faudra attendre Guibert, Hervé Guibert, se filmant mourir du sida pour avoir ce genre de cinéma vérité.
Oui. Est-ce que Ray avait envie que le film soit terminé? C'est une question. On a beaucoup reproché à Wenders de terminer le film. Je pense que l'héroïsme de Wenders a été de finir le film, a été d'en faire vraiment un film, parce que c'était vraiment ça que Ray voulait, qu'il y ait un film testament, disons, même si c'est pas vrai, un film testament au sens où on peut parler des grands films testaments des cinéastes.
Merci Bernard Eisenschitz. Je rappelle que la rétrospective Nicolas Ray, c'est en ce moment même à la Cinémathèque et jusqu'au 28, et qu'après-demain, vendredi, vous serez présent pour présenter Les Amants de la Nuit. Merci d'être passé.
Merci beaucoup.
Et puis, rappelez le titre de votre ouvrage de référence sur la filmographie, le cinéma de Nicolas Ray. C'est Romans américains, Les Vies de Nicolas Ray, édité par Christian Bourgois.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées de Jacques Munier et les enjeux internationaux de Julie Gacon. France Culture, l'esprit d'ouverture.
Une demi-heure de reportage sans commentaire, les pieds sur terre, Sonia Krondoum.
Cette semaine dans les pieds sur terre, des histoires stimulantes ou révoltantes sur l'environnement et la politique, la vie amoureuse et la vie spirituelle, dans la Drôme, à Oléron et dans l'Ain, avec des animaux qui sèment la zizanie, un attentat à Lourdes, une jeune fille non binaire, des enfants aux eaux et une étrange épidémie.
Les pieds sur terre, de lundi à vendredi à 13h30 et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Et nous débuterons ce journal avec une polémique à Bruxelles sur la nouvelle appellation d'un poste à la Commission européenne aux questions migratoires. Ce poste s'intitule « Protection du mode de vie européen ». Le dirigeant de General Electric France est soupçonné de prise illégale d'intérêts. C'est un ancien conseiller d'Emmanuel Macron à Bercy. Nous reviendrons sur cette affaire dans un instant. Et puis vous comprendrez pourquoi les journalistes du quotidien Le Monde s'inquiètent pour l'indépendance de leur métier. Ils ont quasiment tous signé hier une tribune. Climat, technologie, démographie. Voici les grands défis qu'aimerait relever la nouvelle présidente de la Commission européenne. L'Allemande Ursula von der Leyen a présenté hier sa nouvelle équipe avec la Danoise Margrethe Vestager pour affronter les GAFA, les géants du numérique, le Néerlandais Frans Timmermans au front pour sauver le climat. La Française Sylvie Goulard, elle, s'est vue attribuer le portefeuille du marché intérieur. Cette équipe est saluée dans l'ensemble, mais il y a quelques bémols concernant notamment un nouveau poste, Johanna Hochstein.
Ursula von der Leyen se serait certainement passée de ce début de polémique. L'attribution d'un portefeuille sur les questions migratoires, intitulé « Protection du mode de vie européen », a fait bondir les eurodéputés de gauche, Raphaël Glucksmann, socialiste français.
C'est le retour, en fait, du ministère de l'identité nationale de Sarkozy à l'échelle européenne. C'est une capitulation en race campagne devant les populistes et les nationalistes qui gagnent du terrain en Europe. On ne traite pas des questions migratoires comme cela. Ursula von der Leyen a eu des mots plus humanistes devant le Parlement pour être adoubée. Eh bien, il va falloir revenir au discours originel, sinon ça ne passera pas.
La Française Sylvie Goulard pourrait, elle aussi, être égratignée lors de son audition devant le Parlement européen au sujet des soupçons d'emploi présumé fictif sur un de ses assistants quand elle était eurodéputée. Voilà pour les bémols. Pour les points positifs, les parlementaires saluent le respect de la parité homme-femme. Pour le Français de la liste Renaissance, Pascal Canfin, c'est une commission qui fait de l'écologie une priorité.
C'est la première fois que la Commission européenne aborde les sujets climatiques, notamment de manière totalement transversale. C'est-à-dire que le premier vice-président de la Commission européenne a en charge ce qu'on appelle ici le Green Deal, c'est-à-dire la transition écologique, et il a sous sa responsabilité le climat, mais aussi les transports, l'agriculture, les fonds structurels qui vont vers les pays d'Europe centrale. Donc il aura tous les leviers pour opérer vraiment la transition écologique dont on a besoin.
Prochaine étape donc, l'audition des candidats commissaires désignés devant le Parlement européen.
Donald Trump a brutalement mis fin aux fonctions de John Bolton hier à la Maison-Blanche, évoquant de multiples désaccords avec son désormais ancien conseiller à la sécurité nationale. John Bolton était partisan d'une ligne dure avec l'Iran et la Corée du Nord. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou souhaite annexer la vallée du Jourdain en Cisjordanie occupée s'il remporte les élections législatives mardi prochain. Une promesse de campagne pour convaincre des voix à l'extrême droite. Le président palestinien Mahmoud Abbas a prévenu dans un communiqué en cas de mesure de ce type, tous les accords de paix signés avec Israël et toutes les obligations qui en résultent, écrit-il, tout cela serait annulé. Séjour de Diada en Catalogne, de fête nationale où des milliers de personnes vont célébrer l'indépendance de la région, un processus d'indépendance qui cette année est au point mort. Les séparatistes attendent toujours le verdict du procès de 9 de leurs dirigeants. Ils sont emprisonnés depuis 2 ans pour avoir organisé un référendum sur l'indépendance. L'ambiance n'est donc pas totalement à la fête. Notre envoyée spéciale, Élise Delève, l'a constaté.
Au siège de l'association qui organise la manifestation, l'ANC, Maria porte fièrement son t-shirt bleu, couleur choisie cette année pour défiler.
Moi, je me sens très, très, très mal. On a des prisonniers politiques. On les a quittés tout, la maison, et l'argent, tout. C'est une massacre, c'est une guerre contre la Catalogne. Et les Catalans, ils sont toujours debout.
Debout, mais peut-être moins nombreux qu'aux précédentes Diada. Elisenda Paluzzi, présidente de l'ANC, avoue que cette année, elle a du mal à mobiliser.
Le fait que ce soit la 8e manifestation monstre qu'on organise le 11 septembre et qu'évidemment, il y a des gens qui se demandent à quoi ça sert de sortir chaque année dans les rues de Barcelone de façon massive si on n'a pas encore eu notre indépendance, si tout est si difficile. Cela a généré un peu de déception.
Au Parlement aussi, on prépare la Diada. Joseph Forné, député indépendantiste proche des dirigeants emprisonnés, ira manifester. Il n'attend cependant rien de la justice espagnole, convaincu que ses collègues resteront en prison.
L'histoire nous démontre que la tendance de l'État espagnol est de punir, donner des leçons et humilier. C'est sûr, l'indépendantisme a commis des erreurs, mais l'État aussi fait une énorme erreur. Cela fait partie de sa culture. C'est le fait d'avoir amené un sujet politique, la volonté de reconnaissance des Catalans, sur le terrain judiciaire. Et cela ne résoudra pas le problème. Au contraire, le danger, c'est de l'aggraver.
Les indépendantistes n'accepteront qu'une décision, l'acquittement de tous les prévenus, ce qui est peu probable. La Diada n'a même pas encore commencé qu'ils promettent déjà de retourner dans la rue mi-octobre à l'annonce du verdict.
C'était Élise Delève, envoyée spéciale à Barcelone pour France Culture. La filiale française de General Electric était déjà sous le feu des critiques depuis l'annonce au printemps dernier de la suppression d'un millier d'emplois en France, dont 800 à Belfort. Eh bien, on a appris hier que la justice française avait par ailleurs ouvert une enquête sur le patron français de cette filiale. Il est soupçonné de prise illégale d'intérêt, Corinne Audouin.
Entre 2014 et 2016, Hugues Bellay est conseiller d'Emmanuel Macron au ministère de l'économie, où il s'occupe des exportations. L'homme quitte ensuite Bercy pour entrer chez General Electric en novembre 2017. Il en est devenu, en mai dernier, le directeur général France. Ce transfert du public vers le privé avait à l'époque été validé par la commission de déontologie de la fonction publique, sous certaines réserves cependant. Mais en juin dernier, la députée Delphine Batho découvre que General Electric France a bénéficié en 2016 d'une aide publique à l'exportation, une garantie bancaire de 70 millions d'euros. Le dossier relevait des compétences de Hugues Bellay, conseiller export à Bercy, de quoi soupçonner une prise illégale d'intérêt, explique Delphine Batho.
Ça pose question, si vous voulez, les membres de cabinet ministériel doivent défendre l'intérêt général. Quelqu'un qui supervise un dossier d'aide à une entreprise et puis qui, comme par magie, assez rapidement après avoir quitté ses fonctions de conseiller ministériel, se retrouve dans des responsabilités très importantes à General Electric, ça pose un problème évident.
Du côté de General Electric, on assure que ces accusations sont totalement infondées et que Hugues Bellay fournira aux enquêteurs tous les éléments permettant de réfuter ces allégations.
Aux urgences, les grévistes maintiennent la pression. Le collectif Interurgence, sceptique quant aux annonces du ministère, poursuit la grève et il évoque une journée de mobilisation prévue fin septembre. Ce mercredi, c'est la CGT qui appelle le personnel des urgences à se rassembler à Paris. La justice autorise la parution du livre de Tariq Ramadan aujourd'hui. L'une des femmes qui l'accuse de viol ne voulait pas que son nom apparaisse dans l'ouvrage, mais le tribunal a estimé que sa demande porterait une atteinte excessive à la liberté d'expression de Tariq Ramadan. Le tribunal reconnaît toutefois que cette femme a subi un préjudice et condamne l'intellectuel musulman à lui verser 1 euro symbolique. 472 journalistes du journal Le Monde, soit la quasi-totalité de la rédaction, ont signé une tribune hier. Ils exigent de leur actionnaire la reconnaissance d'un droit d'agrément. Ce droit exceptionnel avait été consenti l'année dernière par le trio Xavier Niel, Mathieu Pigas et Pierre Berger. Il permettrait aux journalistes de choisir leur actionnaire majoritaire pour assurer la protection de leur indépendance éditoriale. Sauf que Mathieu Pigas et le nouvel actionnaire, le tchèque Daniel Kretinsky, rechignent à signer ce texte. De quoi inquiéter Paul Benkimou, il est spécialiste des questions de santé et de médecine au Monde. Il préside la Société des rédacteurs du Monde.
Lorsqu'en 2010, le groupe Le Monde a dû se tourner vers des investisseurs parce qu'il était dans une situation économique problématique, on a renoncé à une indépendance économique. Ça, c'est une réalité, il ne faut pas se la dissimuler. Mais avec quelque chose qui était, entre guillemets, notre capital le plus précieux, qui était notre indépendance, avec une frontière qu'ils étaient d'accord pour respecter, et ils l'ont fait, qui était de dire « nous n'empiétons pas sur l'éditorial. Nous, nous restons simplement là pour que cette entreprise soit viable et fonctionne. » Donc, notre capacité à enquêter ou à écrire, y compris sur nos actionnaires, parce qu'il y a eu des révélations que Le Monde a faites sur les Panama Papers et autres, etc. Il y avait effectivement, il pouvait apparaître tel ou tel actionnaire qui était cité et on ne l'occultait pas. On a tenu à ce que le respect de notre indépendance soit constant et c'est ce qui s'est passé.
Mais aujourd'hui, justement, le danger, c'est quoi? C'est Kretinsky? C'est un peu le loup dans la bergerie, finalement?
Ce dont on a peur, c'est qu'il y ait des opérations de changement de contrôle, de changement de main qui nous échappent, sans lesquelles on aurait légalement, juridiquement, aucun recours. Il pourrait y avoir des menaces sur notre indépendance. On aimerait vraiment ne pas en arriver là.
C'était Paul Benkimoun de la Société des rédacteurs du Monde, interrogé pour France Culture par Cécile de Kervas-Doué. Après le Sud, c'est le Nord de la France qui est touché par les averses. Elles vont tomber ce mercredi sur les Hauts-de-France, puis jusqu'à la Bretagne dans l'après-midi. Partout ailleurs, le soleil est de retour, avec ce matin 14 degrés à Nantes, 17 à Paris, 19 à Lyon et 25 à Nice. Il est 6h40. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Et sur France Culture, dans votre journal des idées, vous vous penchez ce matin, Jacques, sur la réforme du baccalauréat. Mmh. Elle entrera en vigueur en 2021, mais dès cette année, des classes de seconde et de première vont en expérimenter les nouveautés.
Oui, et en particulier, Clara, la fin des séries L, E, S et S du bac général, qui seront remplacées par un parcours modulable. Les élèves suivront un tronc commun de disciplines et des enseignements de spécialité, dont deux disciplines majeures et deux disciplines mineures. L'hebdomadaire Le 1 est consacré à cette question débattue avec notamment un grand entretien avec le ministre de l'Éducation nationale. Premier constat, les élèves n'ont pas forcément reconstitué les anciennes filières. Seuls 25% d'entre eux ont opté pour l'équivalent de la filière S, alors qu'ils étaient 55% jusque-là dans cette voie. On observe aussi des parcours très originaux, ajoute Jean-Michel Blanquer. Avec le Premier ministre, nous nous sommes rendus dans un lycée du Var. Sur les 350 élèves de première de cet établissement, 20 avaient opté pour un parcours totalement unique. Un élève qui voulait être ingénieur du son a par exemple couplé informatique, art et musique et mathématiques. Face aux craintes qu'une offre inégalement répartie de ces spécialités ne handicape certains établissements en réduisant le choix des élèves, le ministre affirme que la différence se fera non pas entre un établissement des beaux quartiers et un des quartiers défavorisés, mais entre un petit et un grand établissement. Un établissement de grosse taille comportera plus d'offres. Comme les lycées de banlieue sont souvent de grande taille, ils ont une offre de formation assez riche, ajoute-t-il. Si vous prenez les lycées ruraux, au contraire, il peut y avoir un sujet quand ils sont petits. Le ministre assure avoir travaillé avec les recteurs pour impulser une politique volontariste à cet égard. Et quant à l'inquiétude largement exprimée sur le bac, dont la valeur serait indexée à celle de l'établissement fréquent, il estime que l'instauration du contrôle continu, qui entrera pour 40% dans l'évaluation, devrait offrir des garanties d'objectivité par rapport aux anciens bacs blancs. L'anonymisation des copies, une banque de sujets nationale et un correcteur autre que le professeur de l'élève. Pour Jean-Michel Blanquer, il faut en finir avec le vrai scandale qui est l'échec dans l'enseignement supérieur. Sur le site de l'hebdomadaire Marianne, Samuel Piquet juge que l'on enterre l'école et que Blanquer jette les dernières pelletées de terre. L'ancien professeur de lettres estime que l'objectif premier de l'école n'est plus ni l'acquisition d'une culture, ni encore moins l'émancipation par la pensée, mais la capacité de l'élève à mener à bien son projet et à en faire la promotion en devenant un VRP de son propre cursus, un marchand de lui-même avec en ligne de mire le grand oral du bac, sorte de pré-entretien d'embauche et de tremplin vers la vie active. Et il porte l'estocade sur le bac dont plus personne n'est dupe du niveau réel, la réforme actant par l'introduction du contrôle continu sa caducité. Plus grave, elle reporte à toujours plus tard la sélection qui se fera dès lors et de plus en plus, non pas au mérite, non pas sur l'excellence ni sur le niveau acquis au fil des ans, mais sur le rang social d'origine et sur la capacité à entrer dans les bons lycées et suivre les bons cursus. Sur le site La Vie des Idées, Pierre Merle signe un article intitulé « La loi Blanquer, une révolution conservatrice ?» Le sociologue évoque notamment les futurs EPLEI, établissement public local d'enseignement international, situé dans les grandes métropoles, qui constitue l'archétype de la différenciation des établissements scolaires en créant dès le plus jeune âge une scolarité réservée aux enfants des catégories les plus aisées. Il dénonce le redéploiement des classes européennes qui établissent une différenciation des collèges et la logique d'individualisation des parcours scolaires qui est à l'œuvre avec la réforme du lycée et la création de parcours fondé sur le choix d'options qui entraînera fatalement, selon lui, une concurrence entre établissements. Cette spécialisation territoriale et sociale des établissements scolaires caractérisait l'organisation de l'institution éducative française du 19e siècle, rappelle-t-il. En France, mais aussi dans les autres pays européens, les grandes réformes éducatives du 20e siècle ont plutôt eu pour objet de créer des cursus scolaires davantage communs, indispensables à la massification de l'enseignement et à l'égalité des chances. Le site d'information Les Jours a entrepris une enquête au long cours pour suivre l'application de la réforme Blanquer de l'intérieur au lycée Mounier de Grenoble. Premier épisode, le bac passe la première. Maïté Darnaud a fait sa rentrée avec les élèves de première G4 qu'elle suivra pendant 2 ans jusqu'au bac. Premier défi, les emplois du temps de classe éparpillés entre les enseignements de spécialité mis au point grâce à un logiciel dédié qui évoque à ses yeux un mixte de Tetris. Merci Julie. Rubik's Cube et le dédale du Minotaure.
C'est dur.
. 6h45 sur France Culture, voici les enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier.
Bonjour, aujourd'hui des bruits de bottes à la frontière colombienne du Venezuela.
150 000 soldats, des véhicules blindés, armés de missiles, le président du Venezuela, Nicolas Maduro, les avait annoncé ces exercices militaires, rien d'inattendu en soi. Mais pourquoi ce branle-bas de combat? Je vous rappelle les faits. Le 29 août dernier, d'anciens membres des FARC, la guérilla marxiste de Colombie, annoncent reprendre les armes, 3 ans après la signature d'un accord de paix. Le président de Colombie répond aussitôt qu'il lancera une offensive militaire contre ces combattants qu'il affirme être soutenus par le Venezuela voisin. Nicolas Maduro rétorque à son tour, il annonce placer ses troupes en alerte orange à la frontière, sans qu'on sache très bien ce que veut dire pour lui alerte orange. Bonjour Mathilde Alain.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheuse au CREDA, c'est le Centre de Recherche d'Études et de Documentation sur les Amériques. Vous êtes également membre du collectif NORIA, que nous avons déjà sollicité récemment dans les enjeux internationaux, collectif qui privilégie l'approche de terrain. Mais on va d'abord prendre un objectif grand angle pour commencer cet entretien, Mathilde Alain. Est-ce qu'on a une idée précise aujourd'hui de ce qui lie, en effet, les anciens membres des FARC qui ont annoncé reprendre les armes au Venezuela?
Alors, actuellement, la seule chose que l'on sait, c'est que les FARC ont en effet enregistré une vidéo qui aurait pu être enregistrée depuis la frontière vénézuélienne ou au Venezuela, mais pour l'instant, on ne sait pas vraiment s'il se trouve au Venezuela. Par contre, ce que l'on sait, c'est que cette frontière a toujours été utilisée par les guérilleros et ex-guérilleros comme une manière de se retrancher et ils ont toujours circulé dans cette frontière. Ça, ce n'est pas nouveau. Ils ont toujours utilisé cet espace pour eux de plus de 2000 kilomètres.
Il y a un peu plus de 10 ans, c'était le journal El País qui avait dit avoir eu accès à des documents trouvés dans l'ordinateur du numéro 2 des FARC qui venait alors de se faire tuer par l'armée colombienne. On avait notamment retrouvé dans son ordinateur des mails d'Ivan Marquez, donc celui-là même
qui prend la parole le 29 août dernier dans une vidéo pour annoncer qu'il reprend le combat. Ces mails attestaient de ce que Hugo Chavez, à l'époque, lui avait donné de l'argent et des armes. En tout cas, c'est ce qu'il affirmait dans son mail.
Alors, en effet, il a pu avoir des relations, du moins politiques, entre l'ex-guérilla des FARC et le gouvernement de Chavez. Par contre, de là à ce que ça ait pu être déterminant dans la lutte armée menée par les FARC, cela est moins sûr. Les FARC ont eu, dans le passé, différents types de ressources, en grande partie provenant de l'URSS pendant la guerre froide. Et ensuite, ils se sont surtout autofinancés avec la manne de la coca, mais aussi de diverses activités de ponction au niveau des entreprises qui travaillent dans les secteurs miniers, et donc ils n'avaient pas vraiment besoin d'un soutien financier important de la part du Venezuela. C'est plutôt un soutien politique qui a toujours été affiché et utilisé tant par Chavez contre son allié, contre son rival colombien, que par les FARC pour mettre en avant leurs liens internationaux.
C'est vrai qu'Hugo Chavez, à l'époque, Nicolas Maduro aujourd'hui, accuse toujours la Colombie de vouloir les déstabiliser. Alors, de là à avoir incité d'anciens FARC à reprendre les armes, point d'interrogation, c'est ce que soupçonne publiquement, en tout cas, le président colombien Iván Duque, d'où les déclarations de son homologue vénézuélien Nicolas Maduro, qui l'accuse de manœuvrer pour déclencher un conflit. Est-ce que le gouvernement colombien d'Iván Duque souhaite un conflit ?
Non, je pense qu'à l'heure actuelle, en fait, personne, ni le Venezuela, ni la Colombie, n'ont en réalité intérêt à déclencher un conflit militaire. Cependant, comme toujours, dans ces relations, la rhétorique anti-Duque d'un côté et anti-Maduro de l'autre, et la rhétorique belliciste en général, sert à justifier des politiques internes à chaque État. C'est une constante dans les passes d'armes verbales entre les deux présidents. Et aujourd'hui, on a en plus deux présidents qui sont, chacun pour des raisons différentes, en grande difficulté dans leur pays. Donc, cette rhétorique, elle est réactivée actuellement, notamment à l'aune de la prise de décision d'un certain nombre d'anciens leaders politiques de la guérilla.
La politique intérieure de la Colombie, c'est votre sujet de recherche, on va s'en rapprocher progressivement, mais encore une question plus régionale. Le Venezuela, Mathilde Alain, c'est l'un des dossiers sur lesquels Donald Trump était en désaccord avec son conseiller John Bolton, qui l'a limogé cette nuit. Et on sait combien les États-Unis ont fait et défait des gouvernements en Amérique latine. John Bolton voulait depuis longtemps faire tomber Nicolas Maduro. À l'inverse, la Colombie et les États-Unis sont depuis longtemps très liés. Quel rôle les États-Unis ont-ils joué sur ce dossier, celui de l'accord de paix avec les FARC en Colombie en 2016 ?
Les États-Unis ont toujours soutenu depuis le début un accord de paix, mais plutôt un accord de paix minimal, c'est-à-dire avec notamment une affirmation très claire quant à l'éradication des cultures de coca. Donc, et avec l'arrivée de Trump, celle-ci s'est confirmée, avec une obsession sur les questions de sécurité et de trafic de drogue. C'est pour cela que Trump s'intéresse à la Colombie et ne s'intéresse pas forcément aux autres aspects de l'accord de paix. Par contre, il y a toujours eu un investissement pendant tout le conflit, une grande partie du conflit colombien, un investissement militaire important des États-Unis en Colombie. Et d'ailleurs, si l'armée colombienne était aussi bien fournie, c'est bien grâce à l'aide américaine.
Les États-Unis avaient trouvé en Iván Duque, le nouveau président colombien depuis l'année dernière, une oreille attentive, puisqu'Iván Duque a été élu en 2018 en promettant de réviser cet accord datant de 2016 et qui mettait fin à un demi-siècle de guerre civile qui a fait 250 000 morts. Comment le réviser? Qu'est-ce qu'Iván Duque a en tête quand il dit qu'il veut réviser l'accord ?
Alors, Iván Duque a été élu suite pour mettre en œuvre un accord de paix pour lequel il n'était pas forcément favorable et qu'il n'a pas négocié. Donc, en effet, il y a de nombreux points sur lesquels il n'est pas d'accord. Il a essayé pendant de nombreuses fois de ralentir tout d'abord la mise en œuvre de certaines mesures urgentes, notamment des mesures visant à assurer un avenir politique au parti FARC qui a été créé au moment de la démobilisation, mais aussi pour mettre en place toutes les institutions nécessaires à la juridiction spéciale pour la paix. Le camp Duque considérait que les FARC devaient être traités par la justice ordinaire et non pas par une justice transitionnelle adaptée à à la situation de post-conflit. Et donc, il a essayé, par plusieurs manœuvres au niveau du Parlement, de ralentir tout ce processus. Et donc, de ne pas débloquer tous les fonds nécessaires à mettre en place les différents programmes qui sont vraiment urgents dans certaines zones. Et on peut comprendre d'ailleurs la décision de ces anciens chefs des FARC de reprendre les armes, également face à l'indécision et à l'insécurité permanente que connaissent de nombreux ex-combattants dans les campagnes aujourd'hui.
Parce que beaucoup d'entre eux ont été tués ces dernières années, un décompte a été tenu, mais ces anciens FARC qui reprennent les armes, est-ce que ce sont des combattants politiques, comme l'était la guérilla marxiste pendant 50 ans, ou est-ce que c'est un nouveau groupe criminel lié au narcotrafic, comme le dit aujourd'hui Van Duque?
Alors, en effet, donc on a quatre grands leaders qui apparaissent dans la vidéo publiée. Deux, Ivan Marquez et Jesús Santrich sont notamment des leaders plutôt politiques. Ils ont fait vraiment partie des discussions à La Havane, donc on ne peut pas prendre cette tentative à la légère. Et deux des autres leaders sont plutôt des chefs militaires qui sont notamment malheureusement connus pour des exactions très lourdes et pour de nombreux crimes. Et donc, on peut comprendre qu'ils vont peser dans le nouveau jeu territorial. Cependant, on ne sait pas s'ils ont encore des combattants. On ne sait pas si les dissidences des FARC qui existent déjà, c'est-à-dire les dissidents qui n'ont des groupes qui n'ont pas rendu les armes au moment du processus de paix, ou s'il va y avoir un rapprochement avec l'autre guérilla de l'ELN, ou bien avec d'autres groupes armés. Par contre, ce que l'on sait, c'est que le parti FARC, qui est bien à distinguer, a tout de suite condamné cette prise de parole et la décision des ex-guérilleros de reprendre les armes, et que de nombreux anciens combattants ont aussi réaffirmé qu'ils continuaient dans le processus de paix et qu'ils continuaient leur processus de réincorporation à la vie civile malgré toutes les difficultés de ce processus.
D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils deviennent aujourd'hui, les quelques 7000 ex-guérilleros des FARC qui ont déposé les armes, dans cette notamment initiative de leur proposer des projets de réinsertion? Est-ce que ça fonctionne? Comment ça marche aujourd'hui? Quel est le bilan qui a été d'ores et déjà tiré par la presse colombienne et les politiques colombiens?
Alors, il y a surtout de très nombreuses organisations sociales, des fondations qui font un travail important de recherche et qui mettent en place des instruments pour suivre vraiment la mise en place de ces accords de paix. Et leur diagnostic est le suivant. Il y a une partie des ex-guérilleros qui a choisi individuellement de suivre des programmes de réincorporation à la vie civile. Et donc, ceux-ci, on n'a pas toujours des nouvelles précises de ce qu'ils sont devenus, mais en tout cas, ils n'ont pas tous repris les armes. Ils ont peut-être rentré dans leur famille, repris également la terre qu'ils avaient, parce que pour la plupart, ce sont des paysans. Et d'autres ont choisi de faire partie d'un processus collectif. Donc certains au sein des zones de réincorporation et de normalisation, qui sont des zones où ont été construits plusieurs baraquements et des petites maisons. Et là, ils ont pu mettre en place différents types de projets. Donc il y a des projets collectifs et qui peuvent très très bien marcher, sauf qu'ils ne sont aujourd'hui sans financement. Donc on a aujourd'hui une situation assez tendue, puisqu'il y a une volonté très forte de ces anciens combattants, mais il n'y a ni financement et il y a en plus une situation sécuritaire très très tendue. Vous l'avez dit, on est à peu près à 130 ex-combattants qui ont été assassinés depuis la signature des accords de paix.
Chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, est attendue au Venezuela et en Colombie cette semaine. Merci beaucoup, Mathilde Alain, d'avoir été avec nous ce matin. Merci.
Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture, le Parisien, Combini et Ouzbek Erika s'associent pour l'environnement. Une fois par mois, les quatre médias livrent simultanément analyse et décryptage autour d'un thème commun. Premier rendez-vous ce mercredi avec des révélations sur la pollution de l'air dans les écoles et des solutions pour agir. À suivre dans les pages, sur les ondes, les réseaux sociaux et les sites de France Culture, du Parisien, de Combini et d'Ouzbek Erika. Hashtag Sauvez le présent. Plus d'infos, franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, il est 6h57. Bonjour Guillaume Herner.
Déjà ?
Bonjour,
et déjà, c'est, bonjour, oui, c'est à vous, ça y est, c'est votre humeur du jour, Guillaume Herdin, je vous le rappelle si vous l'aviez oublié.
Merci Julie.
Il y a 3 catégories de menteurs.
Je le crains, Julie. Les menteurs simples, tout d'abord, Donald Trump, lequel a tracé à sa convenance le trajet de l'ouragan Dorian, expliquant que l'Alabama allait être touché, une preuve de plus que Donald Trump n'aime rien moins que s'arranger avec la vérité. Puis hein, il y a la seconde catégorie, les menteurs qui avouent qu'ils ont menti. Alors par exemple, Jérôme Cahuzac, vous vous souvenez, le sémillant ministre qui avait farouchement nié avoir un compte dans les paradis fiscaux avant de reconnaître qu'en fait il en avait un. Et puis voici une troisième catégorie, une catégorie nouvelle. Elle est incarnée par Tariq Ramadan, lequel publie aujourd'hui un livre pour dire la vérité sur son mensonge. Ramadan, c'est le menteur qui dit la vérité, ou plus exactement le menteur qui prétend dire la vérité. Cet homme, accusé de viol par plusieurs femmes, reconnaît avoir menti sur sa morale sexuelle. Celle-ci, explique-t-il, n'était pas exactement en ligne avec celle qu'il suggérait à ses fidèles d'avoir. On peut même dire que son comportement sexuel était strictement orthogonal avec celui de ses prêches. Donc, notre homme a menti. Oui, mais dans le même temps, ce menteur, Tariq Ramadan, assène qu'il dit la vérité au sujet des agressions sexuelles qui lui sont reprochées. Autrement dit, qu'il n'a jamais violé ces femmes qui prétendent l'avoir été. Mais le journal Libération estimait lundi que dans l'un de ces cas au moins, l'une des femmes traitées de menteuse par Tariq Ramadan disait la vérité. Autrement dit, cette troisième catégorie de mensonge, le mensonge qui dit la vérité, devient une variation autour du paradoxe du crétois célèbre en philosophie analytique, lequel peut se résumer ainsi. Acte 1, un homme avoue qu'il ment. Acte 2, si c'est vrai, c'est faux. Mais si c'est faux, c'est vrai. Acte 3, cet homme ment quand il dit qu'il peut dire la vérité. En d'autres termes, quelqu'un peut-il mentir lorsqu'il dit qu'il mentait? D'où cette interrogation vertigineuse. Le menteur qui avoue qu'il ment, dit-il la vérité?
Les matins de France Culture, 7h-9h. Guillaume Herner.
Et aujourd'hui, dans les matins, aux environs de 7h40, nous recevrons Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Car c'est au tour des étudiants de faire leur rentrée sur le banc des amphithéâtres. Et puis, puisqu'on parlera avec elle de science et de recherche et que tout ceci est associé dans nos esprits à l'époque des Lumières, eh bien, aux environs de 8h20, je recevrai un historien qui publie un ouvrage particulièrement complet sur le siècle des Lumières, Antoine Lilti, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, lequel publie l'héritage des Lumières aux éditions Gallimard, sera mon invité. En attendant, eh bien, il est 7h sur France Culture.